Philippe Arimont, le 7 octobre 2003.
Le cours sur la grâce chrétienne. Ce que saint Thomas ne nous a pas donné. Il ne faut jamais l'oublier, ça. C'est pour ça que c'est important de le faire. Parce que certains prennent pour grâce chrétienne ce que saint Thomas a donné sur la grâce. Et des quantités d'équivoques proviennent de là. On prend la grâce, participation à la nature divine. Participation à la nature divine, et on le comprend univoquement. Je crois que c'est ça l'erreur fondamentale, la thèse de notre frère là-bas, à Fribourg. Si on n'a pas vu suffisamment que la grâce, ce que dit saint Thomas sur la grâce, c'est la raison de grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Et il y a les modes de la grâce. Oui, donc c'est toujours ces distinctions qu'on oublie, qu'on ne comprend pas suffisamment. On comprend très bien la différence entre genre et différence spécifique. C'est facile, c'est gros. Et on ne voit pas la différence entre la ratio et l'émotus, quand il s'agit d'une réalité surnaturelle, qui n'est pas générique. Le générique s'arrête à l'humain. L'humain et l'animal s'arrêtent à l'humain. Parce que déjà dans l'humain, il y a toute la métaphysique. Et la métaphysique n'est pas une connaissance par genre et différence spécifique. L'être n'est pas dans un genre. Donc toute la philosophie, c'est la ratio et le mode. Et le point de vue surnaturel ne peut se comprendre que par la ratio et le mode. Donc, il faut comprendre ce qu'est la ratio de la grâce, participation à la nature divine. Et puis, les modes. Il y a un mode chrétien. Et dans les modes, il y a des diversités. Le mode première dans la grâce chrétienne, c'est Marie. Alors, vous voyez, le traité de la grâce chrétienne commence par le traité de la grâce en Marie. Et on ne le met pas sans dans la somme. Saint Thomas n'a pas terminé la somme, n'est-ce pas? Et saint Thomas veut donner les fondements dans la somme. La grâce chrétienne en Marie. On pourrait regarder en Marie les deux moments. Et je crois que c'est ce qu'on doit faire en premier lieu. Marie, dans sa première éducation, elle est petite descendante d'Abraham, petite descendante de Moïse, petite juive, qui vit d'une manière parfaite la grande attente du Messie. Et je crois que c'est important de souligner cette première période de Marie pour essayer de bien comprendre ce qu'est la grâce juive, la grâce de Seigneur accordée à son peuple. C'est un traité qui n'est pas fait. Moi, je n'ai jamais vu. C'est intéressant de voir quel caractère propre de la grâce juive. Et le Monseigneur, le cardinal Lustiger, le prend un peu, n'est-ce pas ? Il essaie d'étudier cela. C'est pas. On pourrait discuter. Ce serait intéressant, je reste. Quel est le caractère propre de la grâce juive ? Le mode. Toujours la grâce, donc c'est toujours participation à l'agir divine, mais selon ce mode particulier. Qu'est-ce qui va dominer dans la grâce juive ? C'est l'espérance, la promesse. C'est une grâce de promesse. Et la promesse a été longue dans la réalisation, 2000 ans, à peu près, quoi. D'Abraham à Marie. Avec toutes les modalités qu'on peut voir dans l'Écriture. Abraham, Moïse et la loi et les prophètes. Explicitation de la grâce, c'est toujours la même grâce d'Abraham à Marie avant l'Annonciation. Mais les explicitations de cette grâce d'attente sont très différentes. Et alors c'est là les explicitations qu'il faudrait voir avec les douze, avec les grands prophètes et tous les prophètes. Sûrement que la grâce faite à Isaïe, les trois Isaïe, qui, au point de vue, si Jésus dit au point de vue théologal, je vois que c'est la grâce du prophète Isaïe exprimée parfaitement dans le troisième Isaïe. Où la grâce d'attente, donc l'espérance, est particulièrement développée dans la grâce du serviteur, celui qui doit venir, le serviteur, l'agneau, serviteur. Mais il faudrait étudier aussi, je ne le fais pas, je l'indique seulement, la grâce que nous pouvons saisir à travers tous les prophètes. Et Marie, alors nous savons, nous, par le dogme marial de l'Immaculée Conception, Marie a donc une grâce plus parfaite selon son mode, plus explicitée comme grâce que toutes celles de tous les prophètes. Elle est la reine des prophètes. Mais je crois que c'est important de saisir cette grâce de l'unité de Dieu. Voyez ? Dans saint Thomas, il y a une grâce, un développement de la grâce sur l'unité de Dieu. Dieu est un. Au fond, saint Thomas reprend au point de vue théologique ce que nous pouvons étudier au point de vue théologique. théologie mystique, dans ce développement de la grâce, j'ai toute la période d'Abraham à Marie. Et je ne crois pas que ça ait été fait. Il y avait sûrement là quelque chose d'intéressant au point de vue théologique. Vous voyez, une sorte d'induction à faire à partir d'Abraham, la vocation d'Abraham. Et la différence, la vocation de Marie à l'Annonciation. Et comparer les deux. La vocation d'Abraham, elle est purement intérieure. Abraham ne donne aucun détail. C'est une des choses moi, qui me frappe toujours énormément. Abraham dit, Dieu lui a parlé. Et c'est suffisant. On ne dit pas, mais comment il lui a parlé? Aujourd'hui, quelqu'un vous dirait, n'est-ce pas? Ça arrive pour le prêtre. Quelqu'un vient dire, Dieu me parlait. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ça me frappe beaucoup parce que Abraham, Dieu lui a parlé. C'est suffisant. Et il lui a dit qu'il fallait partir. Vous voyez, espérance tout de suite, il faut partir. Au mouvement. L'espérance, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Dieu nous conduit. Il faut trouver la terre, aller le lieu voulu par Dieu. Vous voyez, comme la grâce de l'Ancien Testament est liée à un point de vue terrestre, à un point de vue d'un lieu particulier, un lieu de pèlerinage. C'est ce qui reste dans le lieu de pèlerinage. Il y a dans la grâce chrétienne quelque chose de l'Ancien Testament. Vous allez aller à Compostelle, Saint-Jacques de Compostelle. C'est le désir de certains chrétiens. Et c'est peut-être un désir très, très louable. On va aller faire cette marche. Pourquoi vous faites cette marche? Pourquoi? C'était ce que Dieu a premièrement fait pour nos pères dans la foi. C'est très curieux que c'est la démarche de Dieu, notre grâce, la grâce au début, est liée au lieu. Et on voit ça avec Abraham. Chaque fois que Dieu parle plus Einstein, il marque. Et tous les lieux d'Abraham sont marqués spécialement par Dieu. Il n'y a plus ça du tout maintenant. Il y a bien les églises, il y a bien les lieux de pèlerinage. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, alors c'est le Dieu de Bethel, c'est le Dieu. Le Dieu est marqué par ses apparitions. Alors, progressivement, on découvre la grâce dans ce qu'elle a de tout à fait divin. La grâce donnée dans son déplacement de lieu, c'est encore très humain. C'est le côté humain de la grâce pour que nous puissions reconnaître là un lieu et c'est très beau. Et ce lieu humain se précise quand David se pose la question, c'est très bien, nous avons tous notre maison et Dieu, il n'y a qu'une tente. il faut construire une maison à Yahvé. Construire une maison à Yahvé. Ah, qu'est-ce que ça signifie, ça, avec la grâce? La grâce est divine et elle s'incarne. Alors, je crois que c'est toujours ces incarnations de la grâce qui sont très importantes à voir. Dans l'Ancien Testament, c'est très net. Incarnation dans le point de vue géographique et incarnation dans le point de vue des constructions des temples. Donc il y a là quelque chose qui est très particulier et important dans la traité de la grâce. C'est que la grâce, elle est donnée aux hommes et les hommes, eux, le point de vue du lieu, le point de vue du temps. C'est les deux grandes déterminations, les deux grands comment. On est né à tel endroit, et on est né à tel moment. Les deux grands conditionnements les plus profonds, c'est ça. Et là, vous les voyez dans la grâce de l'Ancien Testament au peuple d'Israël. Ou à la question du lieu, la question du temps. Et mettre cela en relief, en le regardant. Au terme, c'est Marie, non pas à Jérusalem. C'est même pas à Jérusalem. C'est à Nazareth. Alors que Jérusalem, c'est le lieu de David. La cité de David, c'est Jérusalem. Et Jérusalem représente quand même, analogiquement, vous voyez, le Rome de là-bas. Israël, c'est le lieu principal. David, cité de David, et temple avec Salomon. C'est ce qui est de plus grand dans l'Ancien Testament. Ça a été le point de vue le plus incarné et le mieux incarné. Alors je crois que c'est une chose qu'on doit comprendre, ça. Cette montée jusqu'à Salomon. Et Salomon, c'est l'apparition de la sagesse. Il y a une apparition de la sagesse, là. Et les livres sapientiaux sont des livres très importants. Parce que c'est la réflexion de la grâce donnée au peuple juif. Alors que cette grâce appelle la contemplation. Appelle un regard de sagesse sur toute chose. Et en même temps, cette grâce est très liée à un lieu, Jérusalem. Tous ces psaumes sur Jérusalem montrent et indiquent que c'est que la grâce dans l'Ancien Testament. Faites attention à ça quand vous récitez les psaumes. On voit combien la grâce va transformer tout le conditionnement humain petit à petit. Parce que c'est ça qui est important. C'est que le conditionnement humain est transformé avec des grandes luttes. À voir que le peuple d'Israël a réclamé un roi. Et Dieu ne l'a pas voulu. Dieu ne le voulait pas. Dieu voulait être le roi du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a voulu avoir un roi. C'est aussi très important, ça. Et Dieu n'a rien dit. Il s'est laissé faire. C'est très curieux. Dieu conduit Et Dieu s'est laissé faire. Et ça a été pour le peuple d'Israël quelque chose de très très particulier pour la grâce, pour le développement de la grâce. Ça a arrêté, ça a humanisé trop. Dieu voulait une pauvreté plus grande. Et le peuple d'Israël n'a pas voulu. Du moins, n'a pas désiré, n'a pas voulu. Il y avait une opposition. Vous voyez, c'est tout ça qui est au fond très important. On ne peut pas le faire, puisque ce n'est pas le but du cours, le but premier. Mais ce qui serait très intéressant, c'est tout cet Ancien Testament, le lire en fonction de ça, pour voir comment la grâce va sanctifier l'homme petit à petit, et comment la grâce s'incarne. Avant de s'incarner pleinement dans le Christ, elle s'est incarnée dans le conditionnement humain. Avec Jésus, c'est avec la nature, avec la substance. Tandis que là, avant, la grâce s'est incarnée dans le conditionnement, le temps et le lieu, pour arriver, après bien des difficultés, puisque même Salomon c'est très grand à un moment donné, mais la fin de Salomon, c'est pas très beau, c'est pas très grand. Vraiment l'impression que la grandeur humaine, la majesté humaine, la richesse humaine devient un obstacle. Mais alors, c'est toujours cette lutte permanente entre la grâce et sa finalité propre et le conditionnement humain. Et je crois que ce serait ça qui serait intéressant à travailler. Lire l'Ancien Testament, le lire un peu en théologie, hein, pas uniquement lecture historique avec tous les détails historiques. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers toutes ces luttes et ces détails qu'on nous donne au point de vue historique du lieu, c'est de voir comment la grâce est comme arrêtée quand le conditionnement est trop lourd. David, c'est merveilleux le petit jeune David. Le petit jeune David en face de Goliath, c'est merveilleux. Mais de voir David dans toute sa splendeur, c'est moins merveilleux. Mais toutes les femmes de David, c'est moins orgueilleux, c'est moins merveilleux que le petit David qui lutte. Et vous voyez, c'est important de voir comment la grâce a besoin que le conditionnement humain ne soit pas trop lourd. Et que la tentation permanente, c'est qu'on veut que la grâce grandisse, c'est très bien, mais que notre conditionnement humain grandisse en même temps. Et on voit que c'est impossible. Alors, il y a des chutes. Des fautes d'orgueil, d'ambition. Et ce qui se passe dans l'Ancien Testament nous aide à comprendre ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Et c'est toujours très éclairant, ça. Dans l'Ancien Testament, c'est l'avantage que c'est écrit en grosses lettres, puisque c'est inspiré. Dans le Nouveau Testament, aucune histoire sainte de l'Église n'est inspirée. Elle est faite par des hommes. C'est la très grosse différence. Pourquoi ça? Pourquoi lorsqu'il s'agit du peuple de Dieu et l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire est une histoire inspirée? Donc c'est une histoire qui est un langage divin et donc qui nous apprend, qui nous apprend la conduite de Dieu. Quand je suis dans le Nouveau Testament et je vois l'histoire de l'Église, il y a des moments d'inspiration, les conciles. L'histoire des conciles, c'est l'histoire inspirée par Dieu. Mais en dehors des conciles, il y a beaucoup de choses qui sont moins inspirées par Dieu et qui font que l'Église s'alourdit, s'humanise de trop. Et de voir comment l'Église du Christ, l'Église catholique, a perdu certains aspects, les schismes, les séparations. À l'intérieur de l'Église catholique, qu'est-ce qu'il y a? Première séparation, l'Église orthodoxe, qui est séparée, mais en même temps est très unie, et reste très unie. Et l'unité est commandée par le mystère de l'Eucharistie. Alors que lorsqu'il s'agit de la séparation à l'égard de l'Église protestante, le mystère de l'Eucharistie n'est pas respecté. Et c'est bien ce mystère de l'Eucharistie, cette présence de Dieu dans l'Eucharistie, qui nous donne le noyau principal de l'Église. L'Église, c'est la présence du Christ dans l'Eucharistie. Et tout tourne autour de ça. Et tout se développe dans ce sens-là. Et il y a une séparation qui se fait que la présence du Christ en Christ n'est plus la même. Alors, il y a quelque chose de très important et très intéressant pour saisir ce que c'est que la grâce. Comment la grâce se développe dans l'Ancien Testament? Comment la grâce se développe dans le Nouveau Testament? 2000 ans. Un peu plus de 2000 ans. 2000 ans et des poussières, à peu près. De moulins et des poussières. Je ne sais pas jusqu'où vont aller ces poussières. Mais c'est quand même très curieux de voir ça et d'essayer de comprendre l'unité qui existe dans l'Ancien Testament. Il viendra un sauveur. C'est le sauveur qu'on attend. Et c'est le sauveur qui maintient l'unité dans l'Ancien Testament. Donc l'unité dans l'Ancien Testament est montrée par l'espérance. La foi et l'espérance. L'unité dans le Nouveau Testament, c'est la foi et l'Eucharistie. Et alors là, les deux grands dynamismes de la grâce. Parce que la foi présuppose la grâce, l'espérance présuppose la grâce, la charité présuppose la grâce. Au terme, au sommet de l'Ancien Testament, il y a Marie. La grâce chrétienne, elle est en premier lieu en Marie. Marie, avant le mystère de l'Annonciation. Nous ne savons rien de Marie avant le mystère de l'Annonciation. Or, Marie est quand même le chef-d'œuvre de Dieu. Plénitude de grâce. Il y a la plénitude de grâce. Donc, tout ce qui est avant est ordonné à cette plénitude de grâce. Mais nous ne savons rien sur le caractère propre de cette plénitude de grâce. Nous savons que cette grâce dépasse toutes celles des patriarches, toutes celles des prophètes. Elle dépasse là, et qu'elle dépasse même la grâce des anges. La grâce de Marie, la plénitude de grâce de Marie, avant l'Annonciation, Marie est déjà la reine. Et l'ange le sait, l'ange Gabriel, vient annoncer à celle qui est sa reine, puisque Marie est la reine des anges, sans être leur mère. Marie est la reine qui dépasse toute la grande attente. Et jusque-là, on est en présence d'une plénitude. Il y a une perfection de la grâce à l'égard de l'Ancien Testament. Nous sommes en présence d'une grâce qui va se transformer par la maternité divine de Marie. Alors, première grande modalité de la grâce chrétienne, c'est que Marie est la mère de Dieu. Et la grâce de Marie, saint Augustin nous dit bien, prius concepit in corde, quam incarne. Elle a d'abord conçu dans son cœur avant de concevoir dans sa chair. Ce que saint Augustin dit, que saint Thomas a repris, et qui est très très beau. La grâce de l'Ancien Testament était tout de suite, dès le point de départ avec Abraham, liée avec les terres de Canaan. La grâce chrétienne, dès son point de départ, n'est plus liée à un point de vue terrestre. Elle est liée au corps du Christ. Et le corps du Christ représente donc, pour le dire, ce qu'il y a de plus grand dans notre monde terrestre, dans notre monde physique. Le sommet du monde physique, c'est le corps du Christ. Le monde physique n'a jamais rien eu de supérieur à cela. Et le corps du Christ est physique. Il est formé en Marie. Marie représente donc le temple de Dieu le plus parfait qui a formé le corps du Christ. Du Christ s'est formé en elle, selon le bon plaisir de Dieu. Et la maternité a son sommet en la maternité divine de Marie. La maternité divine de Marie est ce qu'il y a de plus grand, de plus élevé dans notre monde physique. Puisque Jésus est de ce monde comme l'enfant de Marie et n'est plus de ce monde comme fils bien-aimé du Père. il réalise donc ce que les néoplatoniciens ont toujours eu, ce désir intense d'unir le monde purement spirituel avec le monde physique. Et il y avait chez les néoplatoniciens comme une espèce de préfiguration de voir que le monde physique dans son sommet devait toucher par la lumière. La lumière était considérée comme un métaxu entre le monde physique et le monde de l'esprit. Et en Marie, par le mystère de l'incarnation, ce n'est plus comme une espèce de désir de voir l'accomplissement du monde physique qui rejoint le monde spirituel, on est en présence d'une réalité, d'une vérité. Cette réalité, c'est le mystère de Jésus en Marie, par Marie. Le sommet de notre monde physique, c'est la maternité divine de Marie. Déjà, au point de vue nature humaine, le sommet de la vie végétative, c'est la procréation. Donc la maternité et la paternité. C'est ça le sommet de notre monde physique. Seul l'être parfait engendre. Et le fruit de l'être parfait, c'est la génération. Et cette génération, ce sommet du monde physique, est assumé par le Verbe. Alors, vous voyez comment ce rêve néoplatonicien se trouve réalisé. C'est plus seulement la lumière qui est le sommet du monde physique, c'est la maternité divine de Marie qui est le sommet de notre physique et qui nous fait entrer dans le monde divin, le Fils bien-aimé de Marie. Je crois que c'est très important pour nous de saisir que la grâce chrétienne, c'est en premier lieu la maternité divine de Marie. C'est le sommet. Jésus n'est pas de ce monde, il est Dieu. Dieu, il n'est pas le premier du monde physique. Le premier du monde physique, c'est Marie. Dans l'immanence du monde physique. Et elle est pleinement dans l'immanence du monde physique. Et sa grâce, c'est une grâce de maternité divine. Et cette grâce de maternité divine, elle se précise, saint Augustin, prius concepit in corde, quam incarne. Ce qu'il y a de premier, c'est le point de vue de la grâce, de la foi, de l'espérance. Marie croit en ce don qui lui est fait. fils bien-aimé. La grâce chrétienne est unie substantiellement à Dieu par la maternité divine. Voyez, le point de départ de la grâce chrétienne et le terme de la grâce chrétienne, c'est la vision béatifique. Et la vision béatifique est encore substantielle. Donc, le propre de la grâce chrétienne, elle est substantielle en la maternité divine de Marie, elle est substantielle dans la vision béatifique. Je crois que c'est très important de saisir ça tout de suite. La grâce aura donc deux aspects. Elle est reçue dans l'âme. Et Marie est mère. Tu vois, Marie est femme avant d'être mère. Elle a donc une nature parfaite, nature humaine parfaite. La race humaine n'a jamais été aussi parfaitement réalisée qu'en Marie. Jésus est plus parfait que Marie, puisqu'il est Dieu, mais il est plus homme. Tandis que Marie reste parfaitement femme. Donc, elle est la première, le sommet de l'humanité, d'une façon immanente. Dans l'immanence, le Christ est plus parfait. Et il est au-delà des créatures, puisqu'il est Dieu. Il est créature que à cause de son corps et à cause de son âme qu'il crée. Mais en tant qu'il est personne divine, il est incréé. Il est au-delà de la nature. On a donc en Marie le mystère de la grâce, qui est le mystère d'une grâce plus parfaite. La première. En elle, la foi connaît une perfection unique lorsque Marie reçoit le message de l'ange. Marie répond qu'il me soit fait selon ta parole. Là, je vois bien le mode chrétien de la foi. Que dans l'Ancien Testament, Dieu m'a parlé. Je n'ai pas expliqué. Tandis qu'en Marie, sa foi est total en la parole de Dieu. Marie ne dit pas « Oui, j'accepte d'être la mère du Fils du Très-Haut. » Marie dit « Vrai, de façon profonde, que sa foi l'ouvre au bon plaisir de Dieu sur elle, qu'il me soit fait selon ta parole. Oui, je crois que c'est très important de comprendre cette modalité propre de la foi de Marie. Nous répondons la plupart du temps à la parole de Dieu en fonction de ce que nous comprenons de cette parole. Oui, Marie aurait pu dire « Oui, j'accepte d'être la mère de Dieu. » Donc sa foi a été mesurée par son intelligence de foi de la maternité divine. Marie répond qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, elle s'en remet à la grandeur de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui mesure sa foi. Et non pas ce qu'elle reçoit de la parole de Dieu. Je crois que ceci est très important pour saisir ce qu'il y a de propre à la grâce chrétienne. C'est le premier moment. On essaiera de voir toutes les conséquences de ça. Mais il faut d'abord le voir dans le point. Premièrement, au point de vue de la foi, au point de vue de l'espérance. La foi suit l'espérance. Du moins, l'espérance suit la foi, je veux dire. Et de la charité. Mais nous avons trop facilement une foi qui n'est pas entièrement divine. Nous acceptons ce que nous avons compris. Et nous ramenons la foi à ce que nous avons compris. Tout l'effort théologique, c'est d'ouvrir ma foi à la parole de Dieu. Non pas ce que je comprends de la parole de Dieu, mais de la parole de Dieu, ce qu'est la parole de Dieu. Il y a là une modalité chrétienne de la foi. Vous voyez, regardez la foi d'Abraham et la foi de Marie. Vous voyez tout de suite qu'Abraham, il répond, est-ce qu'il a compris la parole de Dieu ? Quelque chose, il ne comprend pas très bien, c'est forcé, la terre promise. Ah, il y a un fou le camp, il ne ramène pas à quelque chose, la terre promise. La terre de Canaan. Mais Marie montre comment s'ouvrir à une réalité qui nous dépasse. La foi chrétienne nous fait entrer dans un monde qui est au-delà de nous, qui est plus grand que nous ne mesurons pas. C'est vraiment la parole de Dieu qui mesure ma foi. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et il me soit espéré selon ta parole. Et l'amour, c'est à l'égard de ce qui est donné par Dieu. Et non pas ce qui est compris. Il faut comprendre la grâce chrétienne dans ce premier développement de la grâce chrétienne en Marie à l'Annonciation. Ce qui nous déloge de nous-mêmes, ce qui nous fait entrer dans un monde